Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Philippe Ascalasi, économiste au CNRS. Christian Poyot, PDG de Micropole et président de la commission Mutations technologiques et impacts sociétaux du MEDEF. Et Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité directeur de la Fondation Croissance Responsable. J'ai des réactions. Alors Loïc m'écrit. Où va-t-on trouver l'argent ? Il est encore une question qui se pose aujourd'hui. Je pensais que l'argent était gratuit, moi. Alors, je ne sais pas quel est le degré d'ironie dans ce qu'écrit Loïc. Et puis, il y a la réaction de Yann. Vous avez connu l'inflation à deux chiffres avec des salaires indexés sur l'inflation. Alors, arrêtez les anciens combattants, écrit Yann. Donc, il doit être jeune. Je rappelle que la désindexation inflation-salaire, c'est Jacques Delors 83. Hein. Donc, il y a quand même un moment où il y a eu une grosse inflation. Oui, c'est ça. Et il y a eu une grosse inflation et il n'y avait plus d'indexation. Allez-y, Laurent Vorsky. Mais c'est Philippe qui devait parler.
Je voudrais juste, merci de laisser la parole à un ancien combattant. Je voudrais répondre je vais donc répondre à ce jeune auditeur.
J'oublierai pas votre canne en sortant.
Oui, absolument, hein. Oui. Je pense que l'inflation n'est absolument pas un phénomène du passé et qui appartient au musée économique. Je veux dire que j'espère qu'on ne revivra pas ça parce que, à l'évidence, ça va être générateur de très très grosses perturbations et surtout de dislocations au niveau économique. Mais je veux dire que depuis maintenant 5-6 ans, tout ce qui ne devait pas arriver arrive. Et donc là, ça revient avec une certaine violence. J'espère que nous ne connaîtrons pas ça, mais je veux dire que c'est un vrai risque, c'est pas un risque qui appartient au passé.
Et d'ailleurs la question va, à mon avis, se reposer au-delà que, enfin sur BFM Business bien sûr, mais peut-être au-delà de savoir si la réindexation des salaires doit être une mesure ou pas, qu'il faut donc un choix politique. Oui, les 35 heures, on disait les 35 heures, qu'est-ce qui vous faisait réagir?
Oui, non, alors en fait, on met beaucoup de choses sur ces 35 heures. Il faut quand même revenir en 1997-1998, on avait eu les allègements Juppé. Juste auparavant et disons ça avait été déjà une étape importante, alors vraiment parler ça représenterait aujourd'hui 15 milliards d'euros en gros les allègements Juppé, et il y avait un moment où il fallait réfléchir à comment aller et de manière acceptable par les partenaires sociaux et les syndicats dans une étape supplémentaire. Il se trouvait que historiquement, c'est les socialistes qui se sont retrouvés au pouvoir avec une proposition qui était les 35 heures, et il y a eu ce package. D'un côté, on va lancer un mouvement global de réduction des cotisations sociales employeurs, notamment au niveau du salaire minimum, et on va promettre, du côté des travailleurs et des syndicats, un gain qui était une réduction du temps de travail. Je pense que d'un point de vue politique, on n'aurait pas aujourd'hui le CICE, les différents dispositifs, etc., s'il n'y avait pas eu au démarrage de cette fin des années 1990, où il y avait pourtant une forte croissance économique, etc., ce deal politique autour d'une réduction du temps de travail. Ensuite, à partir de 2003, le lien entre réduire le temps de travail et et baisse des cotisations sociales a disparu. C'est François Fillon. Les entreprises devaient avoir signé un accord 35 heures pour pouvoir bénéficier des réductions de cotisations sociales. Il a totalement supprimé ça. Et on a beaucoup d'entreprises, certes, en payant des heures supplémentaires à plus 25% entre 36 et 40, qui sont restées, en fait, à 40 heures. On en voit tout un bloc, à peu près 20% des entreprises sont à 39 heures. Tout un bloc qui sont restées à 39 heures et qui ont touché ces réductions de cotisations sociales. Donc il faut, d'un point de vue d'économie politique, en quelque sorte, c'est un moment où il y a eu une forme de consensus et sur lequel le patronat, même si en fait il s'est très très largement opposé, lorsque vous regardez les premiers qui ont négocié les accords 35 heures, ça a été tous les leaders du CNPF qui allaient devenir le MEDEF. Donc ne réécrivons pas en quelque sorte l'histoire. Il se trouve que les 35 heures ne sont pas en tout cas la cause aujourd'hui d'une difficulté sur le marché du travail français. Et on a un temps de travail français qui est totalement standard par rapport à nos amis européens.
En temps effectif, oui. Moi, je me souviens quand même, Philippe, avoir fait beaucoup de débat sur les 35 heures, en avoir parlé notamment avec les acteurs politiques de l'époque. J'ai fait des débats avec Gaëtan Gors, qui était rapporteur des lois Aubry, qui m'avait quand même dit, alors évidemment, il me le disait off, parce que, mais on finissait par bien se connaître, on en avait parlé beaucoup. Il m'avait dit, oh, franchement, si c'était à refaire, on le referait pas, quoi. Voilà. Et je pense que...
Bah, oui, c'est-à-dire qu'au départ...
C'était une hausse d'impôts imposée à tout le monde au même moment. Une hausse de salaire imposée
c'est
à...
C'était quelque chose que personne ne demandait vraiment. Où je vous rejoins...
Oui, d'ailleurs, effectivement... Non, ce qui est vrai, c'est que... C'était pas une revendication.
Il y avait déjà eu des mouvements dans ce sens-là qui avaient été faits par les gouvernements de droite. Ça, c'est vrai. Moi, je me rappelle avoir discuté avec Gérard Larcher il y a un petit moment, qui me disait, oui, on avait lancé... Alors, j'ai plus le nom du ministre du Travail de l'époque.
De Robien,
qui avait fait des lois dans ce sens-là et qui m'avait dit la même chose en off, naturellement. Oui, c'était une énorme connerie, on n'aurait jamais dû faire ça. Bon, et disons que le gouvernement de Jospin a accéléré sur le sujet, mais c'est une ânerie. C'est la même chose que, là aussi, pour mettre des pavés à la barre, la retraite à 60 ans ou 80, si vous voulez. Hein, voilà. Donc, ça fait partie des mythes.
Ah ben, François Mitterrand savait qu'il ne fallait pas le faire quand il le fait.
L'argent est gratuit. Donc ça, c'est voilà. On peut travailler de moins en moins et gagner plus. Enfin, vous voyez, comme on disait...
On emprunte la différence.
Le Père Noël, et puis, etc. Alors, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, il faut travailler plus, avec des protections sociales pour les plus défavorisés, etc. Bien évidemment, encore une fois, moi, je suis pas en train de dire il faut appliquer les mêmes règles à tout le monde. Mais...
On va pas faire un débat 35 heures. Elles ne disparaîtront jamais. La 36e restera à leur sup. Je pense que voilà, il y a plein de systèmes. Il y a eu 8 lois d'adaptation des 35 heures.
Enfin, d'ailleurs, savez, ça prouve bien qu'il y avait un problème. Je ne boirai jamais de ton eau, je ne sais pas, on verra.
Vous vouliez rajouter un truc ? Non, Laurent, juste un mot. Court, parce que je voudrais qu'on aille sur la cote d'alerte quand même, c'est un peu le mot du jour. L'idée d'aller plus loin en termes de bascule de cotisation vers l'impôt, Philippe Askenazy. Vous dites que c'est. À ce moment-là, effectivement, on libère un peu le travail. Et après, il faut choisir, est-ce qu'on fait payer les revenus ou est-ce qu'on fait payer les consommateurs avec la TVA ou la CSG
Oui, alors c'est un choix largement politique, mais par exemple la santé, qui en Grande-Bretagne est financée par l'impôt,
totalement.
Et qui bénéficie à tous. Vous voyez, dans la crise Covid, on a bien vu que l'ensemble de la population, que vous soyez retraité, actif, non actif, etc., ont très très largement bénéficié de notre système social. On peut largement s'interroger si ça doit être le travail, / les entreprises qui financent un système qui bénéficie à tous. Donc, pourquoi pas ce type de bascule ? En tout cas, je commencerai par ça, plutôt que des éléments, notamment retraite, qui correspondent à quand même du revenu différé. Vous voyez, si on est dans une logique de revenu différé, on a des cotisations qui sont très largement justifiées, qui peuvent basculer dans une logique fiscale. Ça, c'est des choix politiques, c'est complexe d'un point de vue économique.
C'est un vrai choix.
C'est un vrai choix. Oui.
Décider qu'un système d'assurance payé par des cotisations serait plutôt un système de solidarité payé par l'impôt, c'est vraiment une nouvelle architecture, une nouvelle façon de penser. Ça n'empêche pas d'imaginer qu'il y a peut-être des choses à faire pour baisser les 14 points de PIB de retraite. On mettrait un peu de capi, ce serait pas complètement aberrant. Ça finit par s'équilibrer à terme, mais généralement, quand c'est bien géré, on met pas son argent en risque. Et puis, je sais pas jusqu'où on peut aller en termes de réforme de l'assurance chômage. Il y a sûrement des choses à faire encore, alors qui seront évidemment considérées comme antisociales. Mais il y a quelque chose à rajouter, Laurent, non ?
Moi, je pense juste de résumer ce que je voudrais que nos auditeurs, enfin, je pense que beaucoup l'ont compris, c'est que l'argent gratuit, ça n'existe pas.
Ça n'existe plus.
Et donc, finalement, moi, je vais juste résumer. Le budget de l'État, c'est comme une baignoire. Je crois qu'on a tous fait des cours de physique et d'arithmétique. C'est comme une baignoire. Donc, c'est pas compliqué.
Si ça existe encore, mais bon.
Mais vous avez en clair, vous avez une bonde avec de l'eau qui s'écoule, puis vous avez de l'eau qui arrive par le robinet. Donc, c'est pas compliqué. Si le diamètre de la bonde augmente et que vous avez de plus en plus d'eau qui coule, si vous voulez garder le niveau dans la baignoire, bah, il faut qu'il y ait de plus en plus d'eau qui arrive. Maintenant, le débit d'eau, il est limité. Donc, si vous voulez que ça continue, bah, il faut peut-être... c'est soit on accepte de réduire la bonde, soit on est capable d'augmenter le débit d'eau, soit on prend plus de bain et on prend une douche. Donc voilà, je dirais, en deux mots, je dirais le résumé kafkaïen des choix. Et c'est avant tout, il y a des choix politiques qui, pour certains cas, vont demander beaucoup de courage, beaucoup de bon sens et vont sans doute se concrétiser par un suicide politique. Donc, toute la question, c'est faire ce qui est bon pour le pays plutôt que faire ce qui est bon pour moi.
Les choix politiques, ça va être réformer la retraite et savoir si on voulait retoucher à l'assurance chômage, ça voudrait dire qu'on pourrait imaginer une assurance chômage qui serait à géométrie variable en fonction de l'état de santé du marché de l'emploi, avec notamment une durée d'indemnisation qui pourrait varier en fonction des cycles. Et avoir donc une assurance chômage un peu contracyclique de manière à peut-être réaliser des économies.
Il y a quand même une politique de l'offre qui a été faite pendant les 5 premières années du
CPI. Elle a commencé sous Hollande.
Elle a commencé sous Hollande, vous avez raison.
Les impôts, ça commence sous Fillon, se continue sous Hollande, et sous Hollande, on vrille.
Exactement.
On voit qu'on est allé trop loin.
Rendons à César ce qui appartient à César. Le résultat, c'est quand même que le chômage a diminué de manière significative.
C'est objectif.
Il faut quand même regarder les choses. Là aussi, encore une fois, des choses basiques et simples.
Non, c'est objectif. Et je me souviens quand même, on a beaucoup moqué le pins de Pierre Gattaz avec son million d'emplois. On peut pas attribuer ce million d'emplois à telle mesure ou telle mesure. C'est un ensemble d'écosystèmes qui a pu évoluer. Et ben, au bout de 5 ans, il y était là, le million d'emplois. Mmh. Et on était même à 1,1 million, précisément. Je me souviens. J'avais regardé. Vous êtes économiste, Philippe Askenazy. Quand vous entendez cote d'alerte, dans la bouche du ministre, c'est elle est atteinte. Dans la bouche de Geoffroy Roux-de-Bézieux, c'est elle est largement dépassée. Oublions ces jugements. La cote d'alerte sur les finances publiques, vous la traduisez comment ?
Alors, techniquement, on a les plus grandes difficultés pour avoir un chiffre de ce que devrait être une cote d'alerte de finances publiques. En tout cas, en revanche, on a les éléments d'alerte, en quelque sorte. Les éléments d'alerte sont ceux immédiats, qui peuvent être les niveaux des taux d'intérêt à 10 ans, le spread que la France peut avoir par rapport à l'Allemagne. Tout ça, pour l'instant, est relativement... ne donne pas de signaux qu'on aurait atteint une cote d'alerte. On a également l'état de notre balance courante. Ce sont les pays qui perdent de l'argent en quelque sorte, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un niveau de dette élevé. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte particulière sur la balance courante.
Il y a même un événement, Philippe. La Banque de France, hier, nous a dit qu'on était excédentaire en 2021. Voilà. 9 milliards d'excédents. Le premier excédent depuis 15 ans pour la balance des paiements courants. Je rappelle qu'elle inclut tous les services et les services financiers.
Voilà.
Vraiment la balance commerciale où on parle de biens physiques.
Oui, tout à fait.
9 milliards d'excédents en 2021.
Alors, sachant que comme il y a les histoires de prix de transfert des entreprises, etc., la balance commerciale, tout ça est un petit peu flouté et qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à regarder effectivement la balance courante, ce qui rentre en France. Oui. In fine, et effectivement, c'est plutôt à l'équilibre. On n'a jamais eu de déséquilibre extrêmement marqué.
Mais
c'était un négatif.
Mais vous comprenez, étant donné ces 9 milliards, ça ne vous surprend pas ?
Franchement, je ne sais pas.
Je suis quand même un peu surpris. Clairement,
il y a eu des rapatriements, notamment de bénéfices d'entreprises. Bon,
services financiers aussi.
Les services financiers. Mais ça, c'est un petit peu. Les services financiers, c'est parce qu'on a des jeux, en quelque sorte, de transfert qui permettent de limiter les impôts en France. On les reçoit, on les paye à l'étranger, puis l'argent revient en France. Bon, voilà. Mais de toute manière, ces deux éléments-là ne marquent pas d'alerte particulière. Et si on regarde maintenant la trajectoire des finances publiques, modulo pas un nouveau choc géopolitique, par exemple. Elle n'est pas dramatique. Il faut avoir en tête que, notamment si on regarde les finances de l'État, donc là on dit on dépense 50 milliards, etc., mais chaque point supplémentaire d'inflation à terme se traduit par 10 milliards de plus de recettes pour l'État. Donc on va être à la fin de l'année à 6-7% d'inflation, ça veut dire 60-70, donc lorsqu'on vous me dites on donne 50, c'est entre guillemets à relativiser. Et il y a un effet un petit peu ciseau, notamment si vous pensez à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Actuellement, l'inflation va donc provoquer une hausse mécanique en nominal des salaires partiellement, aussi des bénéfices des entreprises, par juste un effet prix. Mais vous payez l'impôt sur les sociétés comme l'impôt sur le revenu pour l'année 2022 en 2023. Donc l'État, lorsqu'il y a l'inflation qui se met en place, a un décalage dans ses encaissements. Donc la situation va se détériorer, effectivement, jusqu'à la fin de l'année. Et puis, il y aura une amélioration l'année prochaine. Donc moi, je sens un petit peu, chez Bruno Le Maire, une manière de dire, regardez, les chiffres sont mauvais, et ça va être mieux l'année prochaine. Grâce à qui ? Grâce à moi, Bruno Le Maire.
C'est bien de rappeler ces éléments techniques. L'impôt sur le revenu, il est en temps réel, maintenant, avec le prélèvement à la source. Il n'y a plus l'année de décalage.
Attention, vous êtes en temps réel sur votre pourcentage de vos salaires, mais vous avez des ajustements de tranches, etc., qui ne sont pas aujourd'hui présents. Et donc, on va avoir certainement Eliès n'est pas, que je sache, encore en temps réel.
Et j'ajoute un élément technique qui va dans le sens de ce que vous dites, Philippe Askenazy, sur l'idée que la cote d'alerte ne serait pas atteinte et même pas dépassée, c'est quand on prend le taux d'intérêt réel et la croissance nominale et le taux d'intérêt nominal, tant que le taux d'intérêt n'est pas au-dessus de la croissance, La cote d'alerte n'est pas dépassée. Et dernier élément, lorsque l'agence France Trésor fait une adjudication, si ses obligations partent comme des petits pains, ce qui est le cas, la cote d'alerte n'est pas dépassée. Après, je dis pas que 3000, bientôt 3000 milliards d'euros de dette, il n'y a pas un sujet. Voilà, c'était les sujets techniques. On a regardé technique. Il n'y a pas un endroit en France où on va regarder le sujet techniquement. On va tous le regarder avec la main sur le cœur, le doigt censeur. Bon, alors allez-y, vous avez le droit de sortir de la technique, là, Laurent Vronsky. Et de me dire, il y a un moment, il faut arrêter de se la jouer. C'est vrai.
Je veux dire que ce que le débat sous-entend, le débat technique, c'est que les choses sont progressives et qu'il va y avoir d'abord des toutes petites alertes, puis après des alertes moyennes qui vont nous donner le temps de rectifier le tir, etc. Mais je suis désolé, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. La preuve, c'est que ce qu'on est en train de vivre avec la crise énergétique, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est une crise énergétique, c'est une violence inégalée. Moi, ça me rappelle, alors je suis désolé, je vais ressortir mon costume d'ancien combattant. Bon, en 73, j'avais 10 ans. Mais je me souviens très bien de ce qui s'était passé à l'époque. Et je dirais, c'est tombé du ciel. Il n'y a pas eu des signes avant-coureurs. Donc, en clair, la limite, elle est atteinte, mais c'est très simple. C'est le jour où on refuse de vous prêter de l'argent.
Ah, mais oui, oui.
C'est aussi simple que ça. Donc, je veux dire,
l'Italie l'a connu, la Grande-Bretagne aussi.
Il n'y a pas besoin d'essayer de lire dans le marc de café ou les entrailles de sanglier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez très bien expliqué, effectivement, la France, elle imprime du papier, il y a des gens qui l'achètent. Le jour, si, suite à un choc exogène ou des chocs exogènes, on refuse d'acheter ce papier, la France, elle est en banqueroute.
Ah ben oui, là c'est la cote d'alerte.
Première chose.
Là, je vous
deuxième cote d'alerte, les taux d'intérêt, je veux dire.
Oui.
Effectivement, les choses sont en train de monter de manière hallucinante. C'est-à-dire, une petite remarque, parce que vous avez dit effectivement les bénéfices des entreprises vont augmenter mécaniquement avec l'inflation. Quand on a des prix qu'on ne peut pas augmenter de plus de 5% parce que l'acheteur refuse que vous augmentiez et vous avez des coûts de fabrication, je parle pour ma paroisse, qui augmentent de 300%, les bénéfices, ils ont plutôt tendance à plonger. Donc, je pense
300%,
que
c'est la hausse de beaucoup de production.
Ah ben écoutez, on a...
D'accord, non, mais...
Pas, heureusement, pas la totalité.
Ah oui.
Aujourd'hui, on a des matières premières, c'est 300%. Et c'est à prendre ou à laisser. On l'a expliqué à plusieurs reprises. D'ailleurs, je me souviens très très bien, il y a 6 mois, du grand débat, est-ce que l'inflation était temporaire ou l'inflation était permanente. Et tous les acteurs économiques de terrain que nous sommes ont tous dit, l'inflation, elle est là pour rester un petit moment. Parce qu'on voyait difficilement comment ça pourrait être un peu pareil. Donc, juste pour terminer ma petite démonstration, je pense qu'il n'y aura pas de signes progressifs. C'est que si demain, il y a un vrai choc, il y a un vrai problème, ça va être soudain. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi ? 3 000 milliards de dettes, mais ça donne mal à la tête à une aspirine, quoi.
Ouais, moi, je voudrais
revenir question
sur le côté sémantique. Code d'alerte. Je vais prendre un exemple qu'on trouve dans les voitures, dans les avions, si vous voulez. Soit la vitesse, soit le régime du moteur. On vous dit, la code d'alerte, c'est 6 000 tours, d'accord ? Parce que si vous allez au-delà de 6000 tours, après, c'est plus la cote d'alerte, c'est le crash. Donc c'est ça, la cote d'alerte. La cote d'alerte, c'est dire qu'on a dépassé la limite autorisée et qu'après, c'est le crash. Alors après, ça pourrait être la cote du crash. Là, ce qu'on est en train d'attendre, c'est la cote du crash. Où là, il n'y aura plus rien à faire, on va se crasher. Donc la cote d'alerte, pour moi, on a dépassé la cote d'alerte. C'est, encore une fois, je reprends cet exemple d'une voiture, ça tout le monde peut comprendre. On doit rouler à 6000 tours. Et après, ça bascule dans le rouge et on va faire péter le moteur. Bah là, on est au-delà de ça. On a dépassé la cote d'alerte. Donc, il faut tout de suite réduire. C'est ça. Donc, je pense, je soutiens évidemment les propos de Geoffroy Roux-de-Bézieux. On a dépassé la cote d'alerte. C'est l'alerte. C'est pas le crash. Là, on est en train de se dire, on n'a pas encore crashé.
Donc, j'admets que là, l'argument est entendable.
Bah oui. Le cote d'alerte. Alerte.
Ça va, comme vous avez expliqué très, très simplement et très concrètement, Christian Parizeau, la dégradation d'un risque souverain, ça peut se faire en moins d'une semaine. Souvenez-vous, l'Italie.
Absolument.
2011, Berlusconi.
Donc, je ne sais pas si c'est technique, mais c'est sémantique, ça.
Non, mais je comprends très bien. Bon. On a 7 minutes. On dit un mot de la sobriété. Sobriété, c'est le mot de la semaine. Il faut baisser 10% notre consommation d'énergie d'ici à 2 ans, nous dit Agnès Pannier-Runacher. Et là, on a très bien compris que est en train de se mettre très concrètement en place les petites décisions qui pourraient intervenir de manière à ce que on soit concrètement capable de consommer moins tout au long de la journée d'électricité qu'aujourd'hui. Et donc, visiblement, c'est quand même les entreprises, c'est là que ça commence. Par exemple, décaler les horaires d'arrivée et de départ pour éviter le pic du matin, le pic du soir. Télétravail pour tous ceux où c'est possible, un maximum, comme aux pires heures du Covid, voire quelquefois des arrêts quelques jours de sites très énergivores.
Moi, je trouve ça très bien, ça ne me choque pas, et les entreprises doivent faire des efforts comme les autres. Alors après, les entreprises, il y en a autant d'exemples que d'entreprises, entre celles qui sont l'industrie, celles qui sont les services comme Micropole, enfin bon, voilà, et puis les petites, les grandes, les moyennes. Bon. Mais demander aux entreprises de prendre bien conscience du sujet et d'appliquer autant que faire se peut, évidemment en préservant leur outil industriel, des mesures de sobriété, moi je trouve ça normal, et je suis convaincu que l'extrême majorité des chefs d'entreprise qui sont les gens responsables vont regarder ce qu'ils peuvent faire, bien sûr.
Alors, les administrations et les entreprises seraient concernées. Par exemple, pas de climatisation en dessous de 25 degrés l'été, pas de chauffage au-dessus de 19 l'hiver. Alors là, on ne va pas mettre évidemment un contrôleur devant chaque climatiseur ou chaque radiateur. Quand vous entendez que les entreprises vont être sollicitées pour faire face à un risque de pénurie de kilowattheure, car le risque de pénurie de kilowattheure existe, même chez nous qui sommes moins dépendants des énergies russes que les Allemands, par exemple.
Je vais vous donner un exemple qui date de la semaine dernière. Très concret, nous, pendant 45 minutes, panne de courant général. Et ça se multiplie. Donc ça, on ne vous le dit pas, on n'en parle pas dans les médias, mais nous, pendant 45 minutes, plus rien. Plus de réseau informatique, plus de machines-outils, plus rien, terminé. Et ça repart. Et je suis convaincu, on ne le saura jamais, qu'effectivement, il faisait très chaud, tout le monde avait mis la clim, dans la zone industrielle, et donc ça a sauté. Il y a de plus en plus de coupures de courant. Et à une époque, ça n'existait pas, ou très rarement. Je veux dire, vous pouvez le vérifier aussi à titre personnel. Souvent, quand vous rentrez chez vous le soir, il y a des appareils électroniques qui se sont mis à zéro, mais ils ne se sont pas mis à zéro tout seuls, c'est qu'il y a eu des coupures de courant pendant la journée.
Parfois, ça peut être des coupures techniques.
Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Donc là, moi, je suis convaincu que, parce qu'en plus, on connaît bien le marché de l'énergie, que clairement, il y a inadéquation entre la demande et l'offre, et qu'il y a déjà des coupures techniques. Donc là, c'est impératif. C'est-à-dire que ça vous plaise ou non, c'est que si on ne réduit pas la consommation, il y aura des périodes d'abstinence. C'est une évidence. Il y aura des blackouts. Donc, je veux dire, toutes les mesures que vous avez citées, c'est du bon sens. Mais même avant cette raréfaction, pour des questions budgétaires, effectivement, laisser la clim à fond, etc., c'était une ineptie. Mais là, je dois vous avouer que pour l'hiver prochain, ça risque d'être un petit peu challenging.
Vous avez un mot là-dessus, Philippe Askenazy, sur cette ambiance un peu particulière, cette accélération en fait de la transition énergétique.
Je ne sais pas si c'est une accélération de la transition énergétique, mais le ministre allemand de l'économie, il y a 3 jours, 4 jours, a averti que l'hiver risquerait de se passer très 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 mal.
L'hiver ne passait pas.
Ne passait pas. Le risque, c'est d'avoir en plus un hiver froid. Vous voyez, c'est dans le type de choc inattendu que l'on peut avoir. Et là, très clairement, c'est parce qu'on a une pénurie de matière énergétique que on va ne plus avoir le gaz russe dans l'ensemble de l'Europe qui pose aujourd'hui problème. Il faut bien faire le lien aussi, enfin, le gaz et l'électricité. On a un fonctionnement en France où pour suppléer aux centrales nucléaires, on utilise des centrales au gaz essentiellement. S'il y a pénurie de gaz, on va avoir pas en cascade pénurie d'électricité. Alors, pour l'instant, on parle beaucoup des entreprises, mais il y a un décret qui est récemment passé qui va permettre aux électriciens de couper pendant 3 heures au maximum les ménages pendant cet hiver. Donc, voilà, on risque d'avoir de manière généralisée une problématique énergétique. Et quant à la question du gaz, c'est les entreprises qui sont vraiment en première ligne. Parce que si on veut couper le gaz, vous ne pouvez pas couper le gaz chez les particuliers. Parce que si vous coupez le gaz, vous êtes obligé de faire venir une personne en intervention pour le couper et à nouveau revenir pour le remettre. Bon, alors que pour un grand site industriel, on fait venir quelqu'un. Vous voyez, on peut faire ces types d'opérations pour des grands sites industriels. Donc, c'est l'industrie allemande qui est en première ligne et également une partie de l'industrie française qui sont en première ligne avec ces problèmes énergétiques. Donc ça, c'est des chocs vraiment du premier ordre qui risquent d'arriver l'hiver prochain.
C'est chaud, hein?
Non, mais on touche du doigt. Enfin, la guerre date que du 24 février. Effectivement, je pense qu'on a tous collectivement, je me mets dedans aussi, pas pris conscience que les impacts que ça laisse produire. Parce que les impacts, c'est pas juste le 25 février que ça se produit, c'est dans le temps. Quoi. Je veux dire, il y a toute une chaîne d'approvisionnement, etc., qui prend du temps pour se freiner, se ralentir en tant que tel. Donc ces effets-là, si je veux dire, je sais pas s'ils sont normaux, en tout cas, ils sont logiques par rapport à la crise de l'énergie qu'on vit, et ça va continuer. Donc dès le mois de juin, on avertisse tout le monde en disant attention, ça va être compliqué, il va falloir faire des efforts, y compris les entreprises. Bon, bah ok, il faut regarder les choses en face. Il y a une guerre, il y a une guerre énergétique. Donc, encore une fois, c'est logique d'être comme ça. c'est normal de rappeler aux gens qu'on n'est pas dans une situation normale. Je pense qu'on le vit pas vraiment. Les Allemands le vivent un peu plus, les Polonais encore plus, parce que peut-être ils entendent le bruit des canons. Mais il y a une guerre à 1500 kilomètres de nos frontières.
Oui, une guerre comme on n'imaginait pas, en retrouver à l'ancienne aux portes de l'Europe et avec l'idée qu'on pourrait manquer de courant, un truc qu'on n'imaginait pas non plus possible. Allez-y, Laurent. Oui.
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'imaginait pas. Je veux dire, mon regard un petit peu historique sur les 70 dernières années. Alors, je rassure notre auditeur, je n'ai pas 70 ans, mais c'est que on a vécu une période, je dirais, d'abondance en tout. Et je rappelle que quand on est rentré dans le Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui produisaient trop, qui se demandaient comment elles allaient faire pour écouler leurs marchandises. Et quel renversement de situation là maintenant sur des biens essentiels, l'huile de tournesol. Hein, on ne parle pas des terres rares. Hein, mais je dirais sur des choses comme ça, sur de la boutarde, sur des biens qui font partie du quotidien, il y a de la pénurie. Donc là maintenant, on est en train de se dire, bah tiens, peut-être qu'il faudra sortir les manteaux parce qu'on n'aura pas d'électricité ou on n'aura pas de gaz. Alors c'est pas une menace, c'est pas un hochet, je dirais, pour faire peur aux gens. C'est la vraie vie. Et quand vous disiez, monsieur, que effectivement dans les entreprises, vous avez un petit monsieur qui vient et qui coupe le courant. Nous la semaine dernière, personne nous a prévenu. Tout s'est arrêté net, système informatique compris. Et là, vous pouvez rien faire, quoi. Vous êtes pris en otage. Et donc je pense qu'on rentre dans cette dynamique.
Bon. On va s'arrêter là, parce qu'il reste que 40 secondes. Je voulais vous demander si vous avez encore confiance dans vos baisses d'impôts de production comme elles ont été annoncées.
Oui.
Moi, de moins en moins.
Hein. Non. Mais parce que le raisonnement, c'est quand même c'est ça qui a aidé à la création d'emplois et au dynamisme de l'économie française.
Ça va pas être mis en cause, ça pourrait être étalé dans le temps.
Hein. Ah, étalé, oui, c'est possible. Mais le discours, y compris au plus haut niveau de l'État, est toujours de dire oui, il faut continuer à les baisser.
C'était Philippe Askenazy, Christian Poyot et Laurent Vronsky. On se retrouve demain à 9h.